Prions ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore nous te louons pour ta parole. Nous voudrions qu'elle soit puissante. Nous voudrions qu'elle tourne nos regards vers la parole vivante qui est en Jésus. En son nom, nous te le demandons. Amen. Chaque année, au moment de Pâques, je vais avec inquiétude dans les magasins. Et je regarde les rayons avec les lapins de Pâques, avec les œufs de Pâques en chocolat, avec tout ce qu'il y a en chocolat dans les rayons. On a l'impression que Pâques, ça veut dire lapin, œufs en chocolat. Et je suis toujours inquiet en regardant ces rayons parce que j'ai peur du jour où je vais voir un jour dans les rayons un crucifix en chocolat. Vous savez, le monde dans lequel on est a profané ce que Jésus a fait pour nous. Le monde dans lequel on est tellement loin de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit à propos du vrai sens de Pâques. Les profanations concernant ce que Jésus a fait pour nous sont multiples, elles sont partout, elles sont dans les films, elles sont dans les best-sellers que les gens reçoivent, bien que ce soit des romans, comme parole d'évangile, pour leur propre perte d'ailleurs. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu regorge d'histoires, d'images, d'illustrations pour nous faire comprendre le sens profond de Pâques et de ce que Jésus a fait pour nous. En fait, l'Ancien Testament, c'est un peu comme un livre d'images, un livre de photos, un album de famille du peuple de Dieu, avec de nombreuses illustrations dans lesquelles nous pouvons fouiller et chercher à l'infini des illustrations pour comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et ce matin, j'aimerais prendre une de ces nombreuses, innombrables images de l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre un peu plus, un peu mieux ce que Jésus a fait pour nous. Cette image se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 21. Et je vous propose de lire les quelques versets qui sont là présentés, j'allais dire comme une parabole, de ce que Jésus a fait pour nous. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, dès le premier verset, nous lisons ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sera libre. Il sortira sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. » Une des nombreuses lois sur lesquelles on pourrait passer sans s'arrêter dans l'Ancien Testament. Mais en réalité, une image, une magnifique image de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous est dit ici, si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 années, la 7e, il sortira. Il ne s'agit pas ici de l'année sabbatique, il s'agit de la 7e année de service de cet homme-là ou de cette femme. Il ne servait que 6 années. La 7e année, il était libre. Et quand on y pense, c'est une révolution par rapport à cette époque où l'esclavage était une servilité à vie. C'était une situation où l'être humain devenait une chose et que l'on dégradait à volonté. Et là, non, au contraire. Il te sert 6 ans. Et après 6 ans, il sort libre. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, il nous est dit, par exemple, que le maître ne pouvait pas laisser partir, après 6 ans de travail, cet homme comme ça, tout seul, les mains vides. Il devait lui donner un salaire, il devait lui donner une partie du cheptel du maître, il devait partager avec lui le fruit de son travail, si bien qu'après 6 ans, cet homme, la 7e année, rentrait chez lui avec des biens pour recommencer sa vie. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage qui était pratiqué dans ce temps-là et même dans les époques suivantes. Dieu apporte là une révolution extraordinaire. D'ailleurs, vous vous souvenez, 7 est un chiffre significatif dans les Écritures. 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la grâce en particulier. Souvenez-vous, justement, de ces institutions de l'Ancien Testament, le jubilé, par exemple, qui avait lieu tous les 7 fois 7 ans, tous les 49 ans. Souvenez-vous aussi de la prophétie dans le livre de Daniel au chapitre 9, où Dieu va donner au peuple Israël un temps de grâce de 70 semaines prophétiques, un temps de 490 ans, 7 fois 7. Cette grâce de Dieu qui s'étendait encore jusqu'à la venue du Messie. Car dans cette prophétie de Daniel chapitre 7, on pouvait calculer à quel moment le Messie allait venir apporter sa grâce au peuple de Dieu. Il te servira 7 ans. Maintenant, nous avons dans la parole de Dieu des indications qui nous montrent que Jésus lui-même s'est présenté comme un esclave, comme un serviteur. Alors, regardez un doigt dans Exode 21, nous y reviendrons, et lisez avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens ce qu'il écrit concernant Jésus au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Nous allons retrouver là un langage semblable à ce que nous avons dans le livre de l'Exode. Philippiens, chapitre 2, nous lirons dès le verset 5 ce passage bien connu. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans cet exemple qui nous est donné dans le livre de l'Exode, se trouve une image de Jésus lui-même. L'esclave, Jésus lui-même. Qui s'est dépouillé, nous dit le texte, qui a pris une forme de serviteur. C'est le même mot d'ailleurs en grec, serviteur et esclave. C'est ce que Jésus a fait, il est cet esclave. Regardez dans l'évangile selon Marc au chapitre 10, évangile selon Marc, chapitre 10. Jésus indique cette même mentalité qu'il a de serviteur au verset 45. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45, dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon de beaucoup. Cet esclave dont nous parle le chapitre 21 de l'Exode, c'est une image de Jésus lui-même, qui s'est dépouillé, qui est venu comme serviteur de l'humanité. Serviteur jusqu'au point de donner d'ailleurs lui-même sa vie. Et lorsqu'il a donné sa vie, d'autres indications nous sont données pour nous faire comprendre qu'il était vraiment considéré comme un esclave. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, ce qui nous est dit au verset 14. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 14, il est écrit ceci. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, tout le monde sait ce que c'est. C'est le prix d'un esclave. Jésus a été vendu par l'un de ses disciples pour le prix d'un esclave. Ainsi, Jésus est cet esclave dont nous parle le livre de l'Exode au chapitre 21. Et Jésus est en effet un esclave libre. Jésus est un esclave libre parce qu'il est lui-même libre du péché. Regardez dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, ce que Jésus en dit lui-même au verset 30. Évangile selon Jean, chapitre 14. Verset 30 et 31. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 30 et 31, Jésus s'adresse aux disciples et leur dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Seul Jésus peut dire une chose semblable. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et vous connaissez ce passage de la première épître de Jean, où le même auteur écrit « Or Jésus apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Jésus est cet esclave, ce serviteur volontaire, mais libre, parce qu'il est libre du péché. Maintenant, retournons un instant dans le livre de l'Exode au chapitre 21, et relisons, si vous voulez, le verset 4. Il nous était dit au verset 3 que s'il est venu seul, il sortira seul. Mais au verset 4, il nous est dit si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, il sortira seul. Le maître peut donner une épouse à cet esclave et il en aura des enfants. Jésus lui-même aussi a reçu une épouse, l'épouse que le maître lui-même veut lui donner. Et il a reçu aussi une famille. Et j'aime ce texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, où Jésus s'adresse lui-même à Dieu et reconnaît qu'il a reçu une famille. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, nous lisons au verset 24. Souvenez-vous, ce chapitre nous rapporte la prière que Jésus adresse à Dieu. Et dans cette prière, il dit ceci. Jean, chapitre 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus s'adresse à Dieu et lui dit « Je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. » Il a reçu une famille. Cette famille que Jésus a reçue, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux que le Père lui a donnés. Et dans le cas particulier, Jésus pensait à ses disciples et puis à tous ceux qui deviendraient ses disciples au cours de l'histoire. Jésus aussi est cet esclave à qui le Père a donné une famille. Et Jésus est conscient que cette famille, il est là pour l'avoir avec lui. Jésus disait déjà, « Tous ceux que tu m'as donnés, Père, je veux qu'ils soient avec moi, qu'ils voient ma gloire, qu'ils y participent. » Cet esclave libre qu'est Jésus a un objectif extraordinaire pour sa famille. Jésus a reçu effectivement une épouse et des enfants. Regardez dans l'Exode, chapitre 21, revenez à ce texte qui nous intéresse ce matin. Il est dit, dans le verset suivant, si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu. Vous remarquez ici que cet esclave entretient une relation non pas d'objet à patron, Mais une véritable relation d'amour en profondeur avec son maître, avec son épouse, avec ses enfants, on n'a pas vraiment l'impression de parler d'esclavage dans la manière dont l'Antiquité parlait de l'esclavage. Il a là une épouse, il y tient, et il dit « J'aime mon maître ». Je ne sais pas si dans l'Antiquité, beaucoup d'esclaves aimaient leur maître. L'esclave était un objet, on le vend, on le remplace, on le tue, si c'est nécessaire, on va en acheter un autre. Mais ici, dans les Écritures, l'esclave est capable de dire « J'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants ». Dans l'Antiquité, les esclaves qui avaient une épouse et qui avaient des enfants étaient condamnés à se retrouver tout seuls parce qu'on allait vendre les enfants à quelqu'un d'autre, vendre l'épouse à quelqu'un d'autre. Pas de famille. La famille serait dispersée inévitablement. Mais cet esclave est attaché à son maître et attaché à sa femme. C'est effectivement cette idée que le Christ nous donne quand il parle de son peuple et dans toutes les images qui sont employées dans les Écritures pour parler de cela, c'est ainsi que nous le comprenons. Regardez dans le livre du prophète Osée. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2, une image semblable est utilisée. Osée, chapitre 2, verset 18. Osée, chapitre 2, verset 18. Il y a là encore une grande parabole, et il est écrit ceci. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Regardez au verset 21. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Dieu utilise cette image à de nombreuses reprises dans les Écritures. Il est le mari et son peuple est l'épouse, la fiancée, qu'il aime. Tu ne m'appelleras plus maître, mais une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus intime est établie avec le peuple de Dieu, avec ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Tu diras « mon mari ». Ainsi, cet esclave du livre de l'Exode, Jésus lui-même, esclave libre, libre du péché, offre à l'humanité ce service de sept ans, le chiffre de la grâce et de la perfection. Mais il est libre. Mais il ne veut pas sortir. Il ne veut pas partir seul. Il ne veut pas rentrer tout seul. Cet esclave libre est prêt à faire le sacrifice. Jésus aurait pu remonter. Jésus aurait pu contourner la croix et remonter au ciel sans passer par le calvaire. C'est ce que le diable lui a proposé pendant 3 ans et demi de son ministère. C'était l'objet des tentations les plus fortes que Jésus a eues pendant ce temps-là. Contourner la croix. Et même au dernier moment, à Gethsémané, Jésus disait à son Père, « Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Jésus aurait pu. Jésus avait dit, « Je peux faire venir des légions d'anges ici pour venir à mon secours. » Et le problème est résolu. Il aurait pu contourner le calvaire et l'humanité ne serait pas sauvée. Mais Jésus a fait le sacrifice. Il n'a pas voulu partir libre tout seul. Il a voulu rester avec sa famille, avoir sa famille avec lui. Sa femme, son épouse, l'Église. Il a voulu l'avoir aussi avec lui. Ainsi, Jésus est prêt au sacrifice. Et lorsque nous regardons dans Exode chapitre 21, il y a là encore une image du sacrifice. Regardez ce qu'il est dit dans Exode 21, au verset 6. Exode chapitre 21, verset 6. « Alors, est-il écrit, son maître le conduira devant Dieu » et le fera approcher de la porte ou du linteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. » Ce maître, dont l'esclave veut rester avec sa femme et ses enfants, l'amène devant Dieu, il est présenté devant Dieu. Il y a là un engagement véritable, il y a là un acte solennel, il est fiancé, il est marié, il est lié, non seulement à sa femme, mais aussi à son maître. Vous connaissez ce texte de l'Apocalypse au chapitre 19 où il nous est dit « Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues. » Et son épouse s'est préparée. Le Christ a une épouse, c'est l'Église, c'est nous-mêmes, chacun individuellement aussi. Et il veut rester avec nous. Il va faire le sacrifice. Et il va dire au Maître, il va dire au Père, « Je reste, je veux être avec ceux que tu m'as donnés. Je veux qu'un lien permanent nous unisse. » Alors, nous dit le texte, le Maître lui percera l'oreille, mais pas n'importe où. À la porte ou sur le poteau. Et quand nous y réfléchissons, cette porte, ou ce poteau de la porte, ou ce poteau de la tente, c'est l'endroit où, lors de la première Pâque, chaque père devait mettre du sang, le sang de l'agneau pascal, pour protéger sa famille. C'était de cette manière que chaque père devait placer toute sa maison sous le signe protecteur du sang de l'agneau qui avait été sacrifié. Dans cet acte où le maître va percer l'oreille du serviteur, se retrouve une image de celui qui a été percé aussi pour nous. Et l'association avec la porte, avec les linteaux et les poteaux de la porte, est très significatif. Il nous oriente directement vers la Pâque, vers cette Pâque qui devait attirer l'attention sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour que tous se mettent sous le signe du sang, que toute la famille soit protégée par le sang de l'agneau qui allait venir et donner sa vie pour l'humanité. C'est là, sur ce poteau de la porte, que le maître va percer l'oreille de son serviteur pour l'attacher définitivement à lui et à sa famille. C'est dire à quel point le signe du sang, c'est dire à quel point la croix de Jésus est l'emblème même de cet engagement mutuel entre le maître, le serviteur et sa famille. Et nous retrouvons inévitablement là cette merveilleuse image où nous avons en fait Dieu, Jésus-Christ, et tous ceux que le Père lui a donnés, l'épouse et ses enfants au travers des générations de l'histoire. C'est là sur ce poteau symbolique, représentant le sacrifice de Jésus, que ce lien va être fait pour toujours entre le maître, l'esclave, sa femme et ses enfants. Et c'est vrai, c'est là qu'a été fait, sur la croix, l'alliance pour toujours, avec le Père sans aucun doute, mais aussi avec l'épouse de Jésus-Christ, au travers de toutes les générations. L'Ancien Testament reprend d'ailleurs cette image à d'autres endroits. Regardez dans le livre des Psaumes, au chapitre 40. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 40. Une phrase curieuse apparaît au milieu de ce psaume, mais elle est très compréhensible en fonction de ce que nous avons vu ce matin. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 40, nous lirons le verset 7. Psaume 40, verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. » tu m'as ouvert les oreilles. » Oh, ne confondez pas, ce ne sont pas des piercings. C'est beaucoup plus que ça. C'est une alliance profonde entre Dieu et son peuple, entre Jésus et l'Église. Un autre exemple frappant se trouve dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 12. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Zacharie, chapitre 12, verset 10, dit ceci. « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et dans le chapitre suivant, chapitre 13 au verset 6, chapitre 13, verset 6, il est écrit ceci. « Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Effectivement, c'est au sein même de son peuple que Jésus a reçu la mort et le sacrifice, dans la maison de ceux qui l'aimaient. Et nous sommes, nous aussi, de ceux qui l'aiment et qui avons terriblement besoin de son sacrifice pour être sauvés. Ainsi, ce passage d'Exode 21 décrit une situation curieuse d'esclavage. Cette image est en réalité une illustration de ce que Jésus lui-même est venu faire dans ce monde pour sauver chacun d'entre nous. Il est venu esclave, libre. Mais il n'a pas voulu remonter au ciel tout seul, comme ça il a voulu prendre avec lui tous ceux que Dieu lui avait donnés. Tous ceux que Dieu lui a donnés, c'est nous tous, et plus encore qui ne sont pas ici aujourd'hui ce matin, et qui nous invitent à aller chercher parce qu'ils lui appartiennent aussi. Pour pouvoir nous avoir avec lui, il a fait ce sacrifice. Il a été percé sur le bois pour que nous lui appartenions à toujours. Maintenant, la question reste à savoir si nous acceptons de lui appartenir. Il veut cette appartenance. Mais de quelle manière avons-nous accepté cette appartenance ? Vous savez, nous vivons dans un monde de consommation. On veut bien recevoir et accepter quelque chose qui est avantageux pour nous. Et quand on nous propose quelque chose, c'est la première question qu'on demande. Quel est mon avantage ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Quel est mon bénéfice dans cette affaire ? Et le bénéfice du sacrifice de Jésus est évident. Il nous offre le pardon et par conséquent la possibilité d'être sauvés et d'avoir la vie éternelle. Le bénéfice pour l'humanité de ce sacrifice de Jésus, il est clair, il est évident. Seulement, il demande de notre part cet engagement total aussi envers lui. Et c'est là que notre société de consommation et que notre mentalité de consommateur ne suit plus de la même manière. Tant que je peux recevoir quelque chose qui est à mon bénéfice, je le prends volontiers, sans engagement de ma part. C'est marqué en grosses lettres en bas du coupon à renvoyer. Sans engagement de ma part. Et je veux bien recevoir les bénéfices de Jésus sans engagement de ma part. Et je veux bien recevoir le pardon en Jésus-Christ sans engagement de ma part. Et je veux bien recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ sans engagement de ma part. Mais le psaume 40 que nous lisions tout à l'heure et auquel j'aimerais revenir maintenant avec vous, nous précise les choses. Nous n'avons pas lu le texte comme il faut. Lisons-le maintenant, voulez-vous, dans le psaume 40. Psaume 40, le psalmiste disait au verset 7, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. » Et regardez maintenant comment il le conçoit, le verset 9 l'explique. « Tu m'as ouvert les oreilles ? Je veux faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. » C'est là l'engagement, c'est là l'alliance. Tu m'as ouvert les oreilles, Seigneur, tu m'as percé les oreilles, tu as fait un engagement avec moi. À quoi correspond-il de ma part? Il correspond au verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. Sans engagement de ma part? Sans aucun engagement? Non, ça n'existe pas. Ceux à qui le Seigneur a donné sa vie et à qui il communique la vie éternelle demandent de chacun d'eux un engagement entier. L'engagement de notre vie, de notre cœur, la volonté de suivre la sienne et le courage de dire que nous lui appartenons à part entière. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, et au chapitre 6 de la première épître, il leur disait « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix ? » Est-ce que nous avons, chrétiens d'aujourd'hui, le courage de dire que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes ? Est-ce que nous avons le courage de porter les signes de l'appartenance à quelqu'un d'autre ? Dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance au quatrième commandement, dans notre consécration à lui, dans le désir de laisser de côté ce qui va gêner son travail dans chacun de nos cœurs. Est-ce que nous avons le courage de dire, de croire et de vivre comme si véritablement nous étions la propriété de Jésus-Christ entièrement? Dans quelle mesure avons-nous accepté de lui appartenir? Dans quelle mesure avons-nous accepté de lui obéir? Dans quelle mesure avons-nous accepté d'enlever tout ce qui gêne pour que nous devenions semblables à lui? Cette image de l'Ancien Testament ne fait en réalité qu'illustrer un aspect du ministère de Jésus pour nous. C'est encore une image parmi cette multitude qui essaie de nous faire comprendre l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Jésus disait, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Est-ce que cette image de cet esclave prêt au sacrifice nous attire encore à Jésus aujourd'hui? Au point que nous acceptions non plus d'être notre propre propriétaire, mais de lui appartenir. Lui veut être notre propriété. Il l'a montré par le sacrifice. Est-ce que nous sommes d'accord et prêts d'être sa propriété pour le reste de l'éternité? Son sacrifice nous y invite-t-il à nouveau, aujourd'hui? Et je vous invite à y répondre, chacun dans votre cœur. Amen.
Hier, on a trouvé vous pour chanter.